à l'éparpiller pour Sodome. Seigneur, dis comme elle est grande la clameur qui monte de Sodome et de Gomorrhe. Et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les deux hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis que Abraham demeurait devant le Seigneur. Il s'avança et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la cité. Vas-tu vraiment les faire périr ? Est-ce que tu ne pardonneras pas à cause des 50 justes qui sont dans la ville ? Quelle horreur si tu faisais une chose pareille. Faire mourir le juste avec le pécheur. Traiter le juste de la même manière que le pécheur. Quelle horreur. Celui qui juge toute la terre va-t-il rendre une sentence contraire à la justice ? Le Seigneur répondit, si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause de je pardonnerai à toute la ville. Abraham reprit, « Oserais-je parler encore à mon Seigneur, moi qui suis poussiéressante peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5 ? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ?» Il répondit, « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être en trouvera-t-on seulement 40 ?» Le Seigneur répond, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Si j'ose parler encore, peut-être y en aura-t-il seulement 30. » Il répond, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « Oserais-je parler encore à mon Adon, peut-être en trouvera-t-on seulement 20. » Il répond, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une seule fois. Peut-être en trouvera-t-on seulement 10. Et la donne répondit, pour 10, je ne détruirai pas la ville de Sodome. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur, de tout mon cœur, merci. Merci Seigneur, de tout mon cœur, merci. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Merci Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, merci. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu réponds à mon appel, tu fais grandir en mon âme la force. Merci Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, merci. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble de loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Merci Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, merci. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel, ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Merci Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, merci. Aux Colossiens, frères, par le baptême, vous avez été mis au tombeau. Avec le Christ, avec lui, vous avez été ressuscités. Parce que vous avez cru dans la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, vous étiez des morts, vous aviez péché, vous n'aviez pas reçu de circoncision, mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait depuis que les mitzvot pesaient sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Animé par l'Esprit Saint qui fait de nous des fils, des engendrés éternels de Dieu, nous appelons, mon Dieu, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Il eut terminé, un des disciples lui demande, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le baptiseur l'a appris à ses disciples. Jésus leur répond, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume arrive. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Ne nous soumets pas dans la tentation. Jésus leur dit encore, supposons que l'un de vous est quelqu'un qui l'aime, venant le trouver en pleine nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur, l'autre répond, je ne viens pas me tourmenter. Maintenant, la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour le donner par amitié, il se lèvera. Oui, il se lèvera à cause du sang-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi, je vous le dis, demandez, vous obtiendrez. Chers sœurs, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qu'il lui demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ton évangile, Seigneur, s'inscrit dans nos âmes. Qu'il nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Que ton huile divine se répande par toute la terre, pénètre dans l'immense bénédiction, toutes les âmes assoiffées de perfection céleste et éternelle.
La libère de toute entrave, tu nous laves de toutes nos fautes, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi. Alléluia.
Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia.
Cette habitude de passer 3 jours et demi, parce que c'est à cause de la victoire de l'agneau sur les 3 ans et demi de l'Antéchrist qu'on fait ça, hein, toujours trois nuits et demie. Première année, deuxième année, troisième année. Nous entreprenons en faisant ça par anticipation, de traverser victorieusement la première année, puis deuxième jour, puis troisième jour. Puis le quatrième jour inachevé de l'Antéchrist. Puis ensuite nous prolongeons librement. C'est la clé, hein, de toutes nos présences ici, c'est la nuit, c'est évident. Le jour, on se mêle à l'esprit de ce monde et on essaie de continuer avec notre pauvre humanité à travailler. Mais le travail de Dieu, c'est vrai, Saint, il te garde. Saint, il te garde. Elle était fondatrice. Enfin, fondatrice, elle a été. Elle est rentrée dans. Elle a été consacrée bénédictine à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans et demi. 13 ans et demi. Tu l'as habillée, elle a fait les vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Elle est devenue, elle a pris la succession de la mère abbesse à la mort de la mère abbesse à 36 ans. Elle a fait plusieurs fondations. À Heidelberg et tout ça. Et tous ces. Ils étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, les moines, les moniales de l'époque. Se lever entre minuit et 3 heures, toujours. Matine, c'était à minuit, entre minuit et 3 heures. Saint-Hildegarde prenait autorité, donc. C'est la nuit qu'on prend autorité. Pourquoi? Parce que c'est la nuit qu'on peut échapper, écraser la tête de la ténèbre et pénétrer dans les ailes qui enveloppent le diaphane. Et emporter donc les éléments en nos mains pour les plonger dans l'au-delà du diaphane. Et les établir en dehors. Par le souffle, par le feu. Et par la plénitude accomplie de la grâce, hein, dans l'éternité du Dieu Tout-Puissant, hein, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, pour nous, la nuit, et pour Saint-Hildegard, pour l'Apocalypse, la nuit est une chose grave. Sérieuse. Pour la victoire de l'agneau sur le malin. Hein. Donc voilà. Vous verrez, évidemment, il y a le poisson, il y a l'œuf, il y a le scorpion. Il y a le pain. Qui te demande du poisson, ce que tu donnes un serpent. Qui te demande un œuf, ce que tu donnes un scorpion à ton enfant. Et les quatre souffles du septentrion, de l'Orient, de l'Aquilon et de l'Occident. Souffle sur nous. Et ce n'est pas avec l'Aquilon, ce n'est pas avec le Septentrion, ce n'est pas avec... Mais c'est au cœur, un petit peu au centre, vers l'Orient, que nous saisissons le soleil. Et dans le soleil, nous saisissons son feu. Et dans son feu, nous rassemblons les éléments. Et nous allons dans les ailes qui enveloppent le diaphane. Et nous touchons l'Esprit Saint. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque ça paraît des paroles énigmatiques, hein. C'est pas, ça paraît des paroles énigmatiques, c'est vrai. Mais sans les paroles de Dieu, c'est les paroles de l'Église catholique. Et ces paroles doivent nous devenir familières. Et elles vont nous devenir familières. Nous souhaitons beaucoup profiter de ces 3 jours, ces 3 nuits, ces 4 jours, et ce 4e jour, pour nous ouvrir au 5e jour. Avec cette révélation que le Saint-Père vient de donner, hein, pour qu'elle nous devienne familière. Parce que ces paroles vont donc réaliser ce qu'elles signifient. On ne peut pas les inventer. On ne pouvait pas les imaginer. Même l'homme pervers, même le démon ne pouvait pas les produire. Et oui, bien sûr, alors, on va rentrer dans cette révélation, dans cet apocalypse, dans ce dévoilement eucharistique, parce que chacune des 50 ou 60 divisions, il faudrait qu'on calcule entre le Skiphias, le livre des œuvres divines, les œuvres de Dieu, 60 visions, oui. Alors ici, bien sûr, on en a affiché peintes à l'huile quelques-unes, comme ici d'ailleurs, il y a des visions qui ont été inscrites. Dans nos murs, mais... Et chacune de ces visions sont accompagnées d'une parole de révélation, d'apocalypse, que nous recevons, que nous allons entendre, que nous allons... Dans la disponibilité de notre âme, tout en écoute, tout en désir recevoir, pour pouvoir, avec ces paroles, avec la germination du Saint-Esprit, du feu et du souffle, et de la plénitude de l'Immaculée, de l'eau, pénétrer dans l'offrande eucharistique. Parce qu'à chacune de ces visions, sans qu'une vision, une porte d'entrée dans la lumière de l'hostie. Chacune d'entre elles. Et elle nous ouvre les portes intérieures à ce déploiement de l'Eucharistie qui nous fait échapper au défi de l'oiseleur. Et pour ça, le Seigneur va nous donner sa force si nous la lui demandons. La force venue du soleil, la force venue de l'Orient, la force venue des ailes enveloppantes, la force venue de la puissance du Saint-Esprit et du Paraclet. celui qui demande du pain, il ne donnera pas. Le Père ne donnera pas à ses enfants le serpent, c'est vrai. Si tu demandes à retrouver l'innocence, l'œuf et la nouvelle naissance et le monde nouveau, il ne te donnera pas le scorpion. Il ne te permettra pas que tu sois atteint par l'antéchrist, le scorpion. L'aquilon. Et petite sainte Hildegarde était encore très jeune. Et le pape Victor II est venu célébrer le synode de Compiègne et puis le fameux concile de Trèves. Il y avait Saint Bernard au concile de Trèves. Et le concile, Saint Bernard et le pape ont envoyé un émissaire, pour être Saint-Hildegarde, pour assister à l'office de matine. Avec elle. Et quand ils sont revenus avec. Avec les paroles révélées, des textes révélés qui avaient été écrits, quoi. Et dans le concile, le pape a reçu ces paroles de Saint Hildegarde, hein, ces écrits, le Scivias, c'était les premières visions du Scivias. Avec les explications que Dieu donne, il n'y a aucune explication qui vienne de Saint-Hildegarde. Toutes les explications viennent de Dieu. C'est une véritable apocalypse. Et c'est le pape qui a lu tous ces écrits devant tout le concile de tous les évêques du monde présents à Trèves. Vous voyez ça? Qu'est-ce que je serais heureux si au prochain concile le pape lisait tous mes écrits. C'est pas le problème, c'est que mes écrits ont émané de moi, c'est pas. Et tout est venu de Catherine, vous comprenez. Tout a été fait par elle. Donc, tandis que dans l'Apocalypse de Saint Hildegarde, tout vient directement de Dieu. Voilà, c'est le pape lui-même, vous voyez, c'est là où on voit l'infaillibilité. Je crois que jamais, dans l'histoire de l'Église, on a lu une révélation d'une sainte de son vivant dans un concile, comme émanant de Dieu. Vous voyez, 888 ans après, nous sommes ici, 9 mois après, ce fait que le pape Benoît ouvre les portes du ciel, ouvre les clés de Saint-Pierre et ouvre cette parole de Scivias et des visions de Saint-Hildegarde, leur fécondité du ciel dans notre terre d'aujourd'hui. Voilà, nous sommes les premiers à en faire l'expérience, les premiers à en faire connaissance, à connaître la liqueur immaculée, divine, efficace, féconde et universellement répandue à travers nous de leur émanation. Bon, vous le savez, je vous l'ai dit 800 fois, donc je répète, mais quand le Saint-Père, qui a le pouvoir des clés, tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel, tout ce que tu liras au ciel sera lié sur la terre. Dieu dépend des pouvoirs des clés de Pierre pour la donation des fécondités célestes et de la vie qui donne victoire à ses enfants. Et c'est le Saint-Père qui, sous la puissance, sous l'opération du Saint-Esprit, comme l'Immaculé, sous l'opération du Saint-Esprit, donne existence au Verbe incarné dans la chair. Et c'est le Saint-Père sous l'opération du Saint-Esprit qui donne existence à l'ouverture du temps des fécondités éternelles de Dieu sur un point donné. Voilà. Donc, à partir du moment où, par exemple, le Saint-Père proclame le dogme de l'Assomption de Marie. C'est seulement à partir de là que les fécondités de l'Assomption de Marie, qui étaient gardées en réserve jusqu'en 1950, peuvent descendre dans notre terre. Avant la proclamation du dogme, pouvoir décliner de sa père, les fécondités propres à l'Assomption de Marie ne pouvaient pas descendre dans le temps de l'Église. L'Église catholique vient du ciel dans ses actes. Et l'acte de l'Église, c'est nous. L'acte pur de Dieu et l'acte de l'Église, c'est nous. Dans l'un. Vous voyez ça? C'est très important. Donc, c'est pour ça que je reviens. Quand quand nous demandons un œuf, le Seigneur nous fait échapper à la morsure du scorpion. Scorpion, vous le savez, c'est entre le 5e et le 6e saut de l'Apocalypse, donc c'est l'Antichrist. Celui qui nous mord par derrière. Un immortel, par derrière. C'est désagréable de se faire transpercer le ventre comme ça. Par devant. Mais par derrière, c'est pénible aussi. Hein? Parce que c'est une trahison. Par devant, au moins, il y a une certaine dignité. C'est une trahison divine. Parce qu'il va utiliser son pouvoir surnaturel chrétien. Antichrist. Mais l'œuf, c'est l'innocence. C'est l'innocence de la nouvelle naissance. C'est l'innocence dans la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance de l'innocence. C'est l'innocence divine triomphante qui s'empare de nous pour que nous soyons en affinité en faisant dans l'un ce que l'Immaculée Conception est dans son émanation. C'est l'œuf. L'œuf, l'ouverture des temps nous donne cette nouvelle naissance et ce monde nouveau. Nous en vivons déjà par anticipation. C'est normal. Il fallait qu'il y ait Joseph, il fallait qu'il y ait Anne et Joachim. Il fallait qu'il y ait l'Immaculée Conception avant l'incarnation du Verbe de Dieu. Il fallait que l'incarnation, la rédemption, la Pentecôte, le Paraclet envoyé, l'accomplissement de tous les temps de l'Église pénètre dans la foi toute pure des précurseurs du monde nouveau. Joseph, Marie, Anne, Joachim, c'est sûr. Et il faut qu'il y ait des précurseurs. Les précurseurs, c'est l'Église catholique. C'est l'Église qui se nourrit du fruit des sacrements, qui voit, touche, connaît le fruit de l'infaillibilité du Saint-Père. Il l'entend, il en est le récepteur immédiat et il donne son fruit. C'est pas le Saint-Père qui peut donner son fruit à l'infaillibilité dont il a l'acte. C'est l'Église catholique. Comme dit le Concile Vatican II, c'est l'Église catholique qui est infaillible dans son sensus fidei, qui reçoit et donne sa fécondité à l'infaillibilité du Saint-Père. C'est pour ça que c'est important ce que nous vivons, qu'il y a deux papes. Il y a deux papes, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Église. Non pas qu'il y a plusieurs papes, parce que c'est déjà arrivé. À l'époque de Saint-Hildegarde, après Victor II, ça a été... je ne sais plus comment il s'appelle, Alexis VI, et puis après Alexandre III. Mais à la fin d'Alexandre III, il y a eu un autre pape. Hein. Il y a eu comme ça deux papes, comme ça, pendant la vie de Saint Hildegard, à la fin de sa vie, en 1160. Enfin, il y avait dedans, il y avait un des deux qui était pape, mais l'autre qui n'était pas. D'ailleurs, celui qui n'était pas a canonisé Saint Charlemagne. Quand on dit, et Saint Jeanne d'Arc a dit, Charlemagne est canonisé, il a dit Saint Charlemagne. Donc, quelque part, il y avait bien deux papes, n'est-ce pas? Mais, bon, en fait, il n'y en avait qu'un, bien sûr. Tandis que nous, on en a deux, mais c'est la première fois qu'on voit une parole de l'infaillibilité du Saint-Père signée par deux papes. Ça n'est jamais arrivé, ça. Il y en a un. C'est comme si les deux s'effaçaient dans l'infaillibilité de l'Église tout entière. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous avez une apparition?
Non,
j'ai vu. Ça n'a aucune espèce d'importance, ces lumières. Ça n'a aucune espèce d'importance, ces lumières-là. Si vous envoyez une note, dites-le nous bien fort. Hein. Bon, je reprends. À qui demande Dieu du pain, il ne donnera pas le serpent. On n'aurait plus besoin de la sagesse philosophique. On n'aurait plus besoin de la sagesse. Le serpent, c'est la sagesse naturelle. La sagesse naturelle sera totalement effacée. C'est normal parce que le méchaume sera installé sur la terre jusqu'à la fin du monde. Donc toutes les sagesses naturelles qui auparavant pouvaient nous mener vers le Christ et vers le Père seront habitées par le méchaume. Tandis que dans le pain, l'Eucharistie, dans le pain que nous donne le Père, si nous réclamons le pain, nous serons instruits par le Paraclet, la sagesse de la croix. La sagesse de la croix est un scandale pour la sagesse humaine, alors que la sagesse humaine était un pont qui nous amenait vers la sagesse de Dieu. Et nous est touché l'existence unitive de Dieu. Mais au jour, précisément de l'Antichrist, il n'y a plus que le du pain et puis le déploiement 5-5-5 de l'œuf. Oui, c'est ça. C'est... De toute façon, on va. Vous allez voir petit à petit, on va rentrer là-dedans. Il faut vraiment que ça nous devienne familier. Il le faut absolument parce que c'est nécessaire. Hein. C'est pas du tout parce que c'est. Voilà. On va se faire une petite coquetterie. Hein. Hein. On va se prendre quelques pierres, quelques étoiles. On va sucer du diamant. On va mettre de la salive sur la calcédoine se mettre dans les oreilles. C'est pas la petite coquetterie de Saint-Hildegarde, non. La petite coquetterie du New Age, non, c'est pas ça. Non, c'est l'Apocalypse. Et ça va nous devenir familier, hein. L'innocence divine, l'œuf, le fruit de l'Eucharistie. Le fruit des sacrements. Voilà les deux qui nous sont donnés pour échapper à l'Aquilon, pour échapper au scorpion. Pour échapper aussi aux heures sanglantes de l'Occident. Pour être tenu par les deux étoiles de l'Orient dans le soleil intérieur des éléments embrasés. De la nouvelle Apocalypse. C'est pas tout l'univers qui est embrasé par l'Apocalypse. C'est juste un point important habité, possédé par le Christ et par l'Église. Parce que la liberté des hommes demeure, la liberté des ténèbres demeure, la liberté et les effets et les fruits des péchés demeurent. Et c'est pour ça, au milieu de tous ces éléments, nous avons la possibilité, la voie, l'enseignement pour rentrer dans le chemin du monde nouveau. Et voilà pourquoi le Saint-Père vient te proclamer infailliblement l'heure de l'Apocalypse dernière de saint Hildegarde. C'est extraordinaire, hein, ce qu'on avait dit, qu'à l'âge de 3 ans et demi, les torrents de lumière, oui, ça représentait là, les torrents de lumière, les anges du ciel descendent sur elle. 3 torrents de lumière descendent sur elle et la font pénétrer dans la lumière. Et dans cette lumière, un soleil. Et dans ce soleil, une brûlure qui est suave, rafraîchissante à cause du souffle. Et elle voit. Elle est emportée au firmament. Et en même temps, elle est sur la terre. Elle voit les choses. Elle entend ceux qui l'entourent. Elle leur parle. Et en même temps, elle est au firmament. Et la révélation se fait. Et les paroles sont entendues. Elles sont livrées. 888 ans plus tard, nous l'entendons. Nous la recevons à la manière que Dieu voulait lorsqu'il les a données 888 ans à saint Hildegarde. C'était quand même incroyable, ça, non? Ça ne peut se faire que dans l'heure récente. 888 ans signifie Élie le prophète. Le temps. Dans 888, c'est Élie le prophète. C'est les précurseurs de l'Apocalypse, les nouveaux Élie le prophète. 888 ans avant Jésus-Christ, c'est Élie le prophète. Oui. Jésus, c'était il y a 2000 ans, et Élie le prophète, c'était il y a 2888 ans. Alors, c'est 888 ans avant Jésus-Christ, le prophète. 888 ans après l'an 1111, voyez bien, la naissance de saint Hildegarde. C'est extraordinaire, ça. Ça fait 88 ans qu'on a rasé le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Il ne reste plus rien du tombeau de Christ. En l'an 1009, ils ont fait ça. Et que, du coup, fait ressurgir des pierres à Abraham et le monde monastique, chrétien et catholique, a surgi de la terre. Le Moyen-Âge est arrivé. Le royaume de paix, de prière et de sainteté qui a duré 222 ans. Et qui s'est noué après dans saint Thomas d'Aquin. Extraordinaire. Après, il y a eu un nouveau. Une vague de l'Aquilon. Du Nord. Saint-Hildegarde voyait tout ça. Et nous allons rentrer dans tout ça. Quand je dis 888 Élie le prophète, je veux dire par là que nous recevons ça avant la destruction de l'Antéchrist, avant sa disparition. Et sa disparition, elle est donnée à l'Église catholique pour ceux qui ont préparé, pour ceux qui ont anticipé, pour ceux qui se sont levés au jour de la ténèbre, chaque jour, jusqu'au jour de l'Antéchrist. Je considère que la prière de la nuit est nécessaire. Saint-Hildegarde n'a jamais échapper à aucune prière de la nuit entre minuit et 3 heures. Jamais. C'est pour ça que ça lui a été donné, n'est-ce pas? C'est l'île prophète. Donc tout doit être reçu dans le raison de l'union transformante. Et l'île, c'est le Carmel. Si vous recevez ça dans les énergies, dans le nouvel âge, dans le métapsychique, alors vous êtes dans le scorpion, vous êtes dans l'aquilon, vous êtes dans la morsure. Mais nous sommes emportés sur les ailes. C'est du paraclet qui envahit la femme. Et la femme recèle toutes les énergies de l'homme. Pour les faire se rabander et se déployer. Très belle expression de Saint Hildegard. C'est dans l'oraison qu'on va recevoir l'Apocalypse du Saint-Père. Le Saint-Père a proclamé et il s'est retiré. Il a proclamé l'Apocalypse. Vous voyez, à qui il te demande du pain, il ne donne plus le serpent. C'est clair. Le pape a donné l'Apocalypse de garde. Apocalypse du monde nouveau. Alors il se retire. C'est étonnant ça. Nous vivons des nuits étonnantes. Nous vivons des nuits admirables. Parce qu'avant on disait on vit des jours excellents et merveilleux. Non, maintenant on ne dit plus ça. Nous vivons des nuits étonnantes. Le Seigneur redresse notre tête. Jamais dans ces moments de la nuit, notre tête ne se courbe. Oh, le Seigneur nous relève la tête. Et quelquefois, on voit des gens qui font raison. Voilà, alors d'abord, comme ça. Ils font raison comme ça. Ouais. Ils assistent à la messe comme ça. J'en ai vu. Hein. Vous l'avez jamais vu, vous? Moi, j'en ai vu. Je vous promets que j'ai vu ça. Des gens qui croisent les gens. Pendant une messe. Je l'ai vu. Hein. Merci. Vous savez que dans un monastère, vous voyez ça, vous êtes viré du monastère. Si quelqu'un croise les hommes, il est viré du monastère. Tu ne peux pas rester dans un monastère si tu dis, moi, hein, je suis Madame Récamier. Hein. Oui, pourquoi? Parce que si vous croisez, ici les pieds, si vous croisez... Vous ne pouvez pas être en horizon de quiétude, c'est impossible. C'est strictement impossible. Les éléments ne vous sont pas soumis. C'est strictement impossible. Vous allez voir, à force, hein, on va rentrer dans la révélation. Si vous croisez les jambes, ça veut dire que c'est dans l'instant que vous devez être assumé par Dieu. Donc, si c'est dans l'instant et qu'il faut que vous, c'est-à-dire, d'abord vous redressiez, vous mettez ça comme ça, puis les deux pieds, c'est trop tard. C'est fini. L'instant est parti. Cinquième demeure, impossible. Impossible. C'est pas de ma faute. C'est pas une coutume. C'est pas une loi. C'est un fait. Parce que l'homme a été créé par Dieu. Comme Dieu lui-même dans l'univers. Quand vous faites oraison, c'est sûr, que vous assistez. Moi, je me rappelle une fois, il y avait Jean-Marc qui était... qui s'était à Eyrolles-Spa, On lui avait mis une robe blanche et il était rentré dans le chœur pour, voilà, pour la messe. Et puis, comme ça, il était comme ça. Comme ça. Alors, vous vous rappelez, on était obligé d'interrompre la messe. Dans le cœur. Alors, Jésus est descendu, s'est levé, s'est approché de lui, et puis il a fait ça. Et Saint-Esprit l'a soufflé dans l'oreille, dans le cœur. Jamais croiser les jambes. Ça veut dire que je suis installé dans mon monde. Donc Seigneur, tu peux y aller, tu peux me dire tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Le corps a un langage. Et le corps parle à Dieu. Et si mon corps fait un mouvement, ça veut dire que le mouvement divin, je ne veux pas qu'il prenne toute la place. Même un cheveu, un petit mouvement, non. Ça s'apprend petit à petit, hein. C'est l'oraison qui nous permet de devenir des hommes véritables, des enfants de la terre. Et probablement demain, on pourra assembler tous les éléments de l'univers et avoir autorité sur eux pour qu'ils deviennent des serviteurs du souffle qui tempère le feu et fait reculer l'aquilon. Mais ne vous inquiétez pas. On ne va pas gloser. On va lire. Directement, mot à mot. On ne va pas perdre notre temps du tout. Hein. Pour l'instant, on se prépare. On se prépare. La terre tout entière, l'humanité tout entière, l'église tout entière est dans un état de préparation. On se prépare. Le temps est suspendu. L'heure est arrivée. Il faut avoir beaucoup de démesure parce que celui qui a la mesure appartient à Satan. La démesure, c'est la foi. C'est pour ça qu'il faut être sans gêne avec Dieu. Il est beau l'évangile d'aujourd'hui. Si tu aimes Dieu, ça ne suffit pas. Voilà ce que dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Il faut être sans gêne, il faut être démesuré, sans gêne. N'ayez pas peur. Offrez des œuvres beaucoup plus grandes que celles que moi j'ai faites. Offrez des œuvres beaucoup plus grandes que celles que moi j'ai faites. Jésus qui dit ça. Dieu. La foi ne nous met pas dans un état qui est sans mesure. se nommer dans un état là, petit, moussaillas, filationas, bascouillas, filandras, mouillasas, limasas, serpillasas. Bien sûr, là voilà. Vous allez me dire, mais oui, mais on est des enfants, on est fragiles, on n'est rien du tout. Mais justement, c'est grâce à ça qu'on n'a pas à compter sur nous, qu'on peut reposer, s'exposer dans la disponibilité parfaite, ne plus agir par nous-mêmes. Puisqu'on est nul, on n'est rien, on est petit, on est blessé, on est fragile. Alléluia. Même on est pécheur. Alléluia. Alléluia. Et l'invasion de la lumière envahit, s'incarne et habite tous les éléments de la cellule de notre innocence. L'homme apparaît. Il recèle toutes les énergies de la puissance divine. La femme recèle ces énergies et les fait se déployer, surabonder partout, au-delà des ailes de l'aurore. Car l'aurore est arrivée. Et ça, c'est les paroles de Saint Hildegarde, ça que vous connaissez ça. Alors. C'est incroyable ça, hein? Cette réponse du pape Benoît XVI au pape Victor II, le concile. Voilà, et en ce moment, on prend autorité, on célèbre la messe. C'est ce que me disait Marie, elle disait. Il y a une semaine, elle disait, voilà, le Seigneur vous donne toute autorité. Le Seigneur vous donne toute autorité. Et je vous transmets la parole. Le Seigneur vous donne toute autorité pour le gouvernement du monde. Le Seigneur vous donne toute autorité sur les éléments. Avec le père de la France, avec Saint-Martin, avec la déchirure de son manteau, ouvrez largement les mains, avec Saint-Hildegarde, rassemblez tous les éléments de la grâce, de la matière, de l'eau, de la terre et du feu, du souffle et du vent, et de l'air. Rassemblez tous les éléments. Et prenez autorité sur elle. Tous les éléments de vie. Et prenez autorité sur eux. Nous avons accès à l'œuf. Nous avons accès à l'innocence divine. Nous avons accès à la cinquième demeure, sixième et septième demeure. Voilà la démesure de la foi des pauvres et des petits. C'est une démesure de Dieu qui est ivre de bonheur quand il voit des petits et des humbles. Qui ont échappé à la présomption et à la susceptibilité. Les deux morsures du dragon, c'est l'orgueil et la susceptibilité. Je crois intimement, mais j'en suis pas sûr, et je ne suis pas le Saint-Père, et je n'ai pas eu la révélation. Je crois intimement que si l'Antéchrist va échapper à la sainteté parfaite, catholique, 19 ans après sa montée dans cette sainteté-là, c'est à cause d'une susceptibilité, à mon avis, et d'une jalousie, parce que il y aura eu la toute petitesse minuscule de la royauté du nouveau Joseph de la terre, du nouveau roi, du nouveau Messie, du nouvel roi du ciel et de la terre, du plus grand saint de tous les temps. Il y aura une petite jalousie quand même. Et à sa disparition, cette jalousie va apparaître en lui et va le faire tomber et l'établir dans sa mission volontaire de déchéance de l'Église tout entière, de l'intérieur de l'Église elle-même. Il faut échapper à la susceptibilité et à la présomption. Donc, vous savez, premier acte, toujours être à l'heure. Même un peu avant. Premier degré d'humilité. Et Saint Thomas, il arrive toujours en retard. Parce que c'est un jumeau. Les jumeaux, c'est terrible, les jumeaux, parce que Dieu conçoit le premier, et puis le jumeau, lui, il attend le quatrième jour. Il attend qu'il y ait une cellule totipotente qui arrive et pff, tu le crées dans cette première cellule. Il est en retard par rapport à la responsabilité, par rapport à l'élément, voyez, par rapport au diamant. Et alors, c'est pour ça que c'est plus dur pour un jumeau d'être humble pour quelqu'un qui n'est pas jumeau, parce que quelqu'un qui n'est pas jumeau, c'est facile d'être humble. Vous n'êtes pas jumeau, donc c'est facile pour vous. C'est facile parce que vous êtes resté 9 mois dans l'ipsolipsisme transcendantal. C'est pas humiliant, ça? Nous, les jumeaux, nous avons échappé à ce désastre que tu as voulu comme conséquence du péché originel. Normalement, on a toujours dû être deux. C'était la sagesse créatrice de Dieu qu'on soit deux. Souvent, on voit des gens qui ont des révélations, qui disent, voilà, si t'as telle blessure, c'est parce que t'as un jumeau. Oh, j'ai un jumeau, moi. Dans la sagesse créatrice en Adam, tu aurais dû avoir un jumeau. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas été imprégnés de Saint-Hildegarde. Alors, ils le disent d'une manière qui n'est pas juste. Si vous écoutiez certaines personnes, je connais par exemple le docteur Patrick, qui est d'ailleurs un sataniste, enfin, systématiquement, il guérit les gens en disant, voilà, à partir de ton jumeau, qui est mort. Mais vous voyez, c'est la grimace. Parce qu'il prend ça à titre thérapeutique, médical, métapsychique, dans les énergies, vous voyez. Mais si vous le prenez en Adam, si vous le prenez dans avant le péché originel, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu de péché originel, il y a eu le péché originel. Donc, le dire comme ça, ce n'est pas vrai. Mais le dire que oui, vous êtes blessé parce que votre jumeau n'est pas là, ça veut dire que vous êtes blessé parce que Dieu a voulu un ipsolipsis transcendantal pendant 9 mois pour vous. Et ça, c'est blessant, c'est vrai. C'est blessant, mais au moins, ça vous donne l'humilité. C'est une humilité ontologique, c'est une humilité de l'innocence. C'est une humilité du diamant, voyez ça. Bien sûr, nous avons un jumeau. C'est Jésus. Il y a dans l'Eucharistie de quoi comprendre que nous sommes créés avec quelqu'un et que nous avons une unité gémellaire avec lui. Et il faut vivre ces 9 mois, cette création, avec mon jumeau qui est Jésus, avec le Verbe de Dieu devenu chair, avec l'Immaculée Conception. Et repasser, c'est ça qui sera la grâce du cinquième saut de l'Apocalypse, c'est ça qui sera la grâce de l'avertissement. C'est de pouvoir reprendre toute notre vie avec notre jumeau véritable. Et on ne sera plus en retard. On sera plus humble. Et on sera plus du tout susceptible. Mais il vaut mieux commencer avant l'avertissement. Je ne vise personne. Suivez mon regard. Seigneur, tu nous redresses la tête. Face à l'ennemi.